l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. En cette saison 5 de l'EM, je vous le disais, qu'on gardait nos excellentes habitudes et nos excellents partenaires. C'était le cas pour Eau et Rivière la semaine dernière. Voici à présent Bretagne Vivante, autre grande association environnementale de notre région, aux thématiques plus vastes encore. La preuve avec le sujet du jour qui a trait à la fois à la production d'énergie, sans carbone ou presque, c'est donc en lien avec l'évolution du climat, mais il est question aussi de faune et de flore marine, puisque nous allons évoquer les parcs éoliens offshore. Jusqu'à la fin novembre 2020, il y a un débat public organisé sur l'implantation d'un parc d'éoliennes flottantes au large des îles de Groix et de Belle-Île dans le Morbihan. Bretagne Vivante a souhaité affirmer et détailler sa position sur ce projet et sur l'éolien. C'est même le sujet du dossier du magazine de Bretagne Vivante, l'éolien offshore. Nous recevons donc aujourd'hui l'un des administrateurs de l'association, qui est aussi président d'honneur de France Nature Environnement, Dennis Lostis. Bonjour.
Bonjour.
Les éoliennes, on les connaît bien en Bretagne, surtout sur terre en fait. Sur mer, elles sont encore à l'état de projet, de grands projets même. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler de ce projet qui concerne Belle-Île, enfin l'île de Groix, ce projet de parc?
Alors, de fait, dans la région administrative, ou pour ce qui concerne la région administrative, c'est le deuxième projet éolien, puisqu'il y a un projet pilote qui est déjà bien avancé, qui s'appelle projet de Groix-Belle-Île, et qui concerne également des éoliennes offshore. Donc là, c'est un projet pilote avec trois éoliennes. Mais là, on est sur un projet commercial, un appel d'offres lancé par l'État, dans des nouvelles conditions d'ailleurs de débat et de contact avec la population. Et nous sommes dans la première phase du débat public organisé par la Commission nationale du débat public et qui permet à tous les acteurs de pouvoir participer à ces débats, de poser les questions que l'on souhaite. Et je renvoie ici sur Internet à des lieux où on peut déjà avoir pas mal d'informations sur ce projet. Donc ce projet est un projet qui va déboucher, après le débat public, sur un appel d'offres, c'est-à-dire qu'on verra quels sont les opérateurs qui répondront aux conditions qui seront mises en œuvre pour un projet, dans un premier temps, qui devrait concerner 250 mégawatts, et dans un deuxième temps, sans doute le double. Donc un projet qui déboucherait, si tout se passe correctement, mais dans l'éolien offshore, c'est en général très long, en 2028. Donc nous sommes dans une phase aujourd'hui qui sert à déterminer la meilleure zone potentiellement disponible à moindre impact environnemental pour installer ce premier, puis ce deuxième parc éolien.
Mais c'est quand même faire Belle-Île et Groix, celui
dont
vous
parlez. C'est encore plus au large que la ferme pilote.
Ah ouais,
nous sommes là dans ce qu'on appelle plutôt... On est dans la zone économique exclusive, on n'est pas obligatoirement dans le domaine public maritime. Comme on n'a pas encore défini véritablement la zone, je ne peux pas vous dire où on sera, mais
bien
globalement,
sûr,
on est au-delà des 12 000. Et donc, bien difficile d'ailleurs à voir, sauf peut-être quelques rares éoliennes depuis les îles du sud de la Bretagne.
Et 250 mégawatts, ça ne paraît pas énorme. Ça fait combien potentiellement d'éoliennes?
Alors, aujourd'hui, les dernières éoliennes que l'on installe, alors c'est difficile de vous répondre puisqu'elles seront installées en 2026, 27, 28. Aujourd'hui, les dernières éoliennes que l'on installe sont des éoliennes de 14 mégawatts. Donc, en gros, ça fait une vingtaine d'éoliennes dans les conditions technologiques d'aujourd'hui. Mais la technologie éolienne évolue à toute vitesse. C'est incroyable les évolutions techniques et technologiques auxquelles on fait face. Et donc, peut-être qu'on aura des éoliennes de 15 mégawatts en 2028. Et donc là, on aura encore moins d'éoliennes.
Ah oui, parce que c'est ce qui définit le parc, c'est la puissance, c'est l'électricité produite. Ce n'est pas le nombre d'éoliennes, justement.
Non, c'est pas
la surface.
Non, donc ce sur quoi l'on peut travailler, c'est d'ailleurs un des objectifs du débat public, c'est d'essayer d'avoir peut-être le moindre d'éoliennes possibles, qui peuvent être des obstacles à la circulation, par exemple, de l'avifaune, d'oiseaux, ça peut être des obstacles à la circulation de mammifères marins, que sais-je. Donc là, il faut cet objectif-là peut présenter des avantages. Ça peut être aussi des inconvénients, puisque plus les EN sont puissantes, plus elles sont grandes, plus le diamètre balayé par le rotor est imposant, et donc à présenter un obstacle à la circulation ou à la migration d'oiseaux ou de chauves-souris.
Oui, on va revenir sur les impacts, évidemment, sur la faune et la flore. Et c'est forcément dans le cahier des charges, ça sera forcément du flottant, ces éoliennes.
Ah oui, là, on est parti sur du flottant, parce qu'on est très vite, lorsqu'on est dans le golfe de Gascogne, on atteint des profondeurs importantes, et donc on ne peut plus envisager de faire de l'éolien posé. De surcroît, l'éolien posé se situe dans des zones proches du littoral, donc où il y a d'autres usages de la mer, quelquefois très importants, ça va de la pêche à la plaisance, par exemple. Et donc, plus on s'éloigne de la côte, plus le vent est important, plus il est stable,
oui, constant,
et constant, et plus on a de puissance développée par mégawatts nominal installé.
Alors, quelle est la position, je ne sais pas s'il y a une position officielle de Bretagne Vivante
sur
l'éolien offshore.
Oui, on va remettre un cahier d'acteurs, c'est-à-dire en gros une note de positionnement politique et technique sur ce dossier dans les jours qui viennent à la commission particulière du débat public, dont la commission qui recueille les avis. On est déjà intervenu dans de nombreuses réunions qui ont lieu entre Concarneau et la Turballe, pour l'essentiel sur l'Orient et les îles concernées. Et oui, nous avons un positionnement, de même que le mouvement France Nature Environnement, un positionnement sur les énergies renouvelables en général. Nous, ce que nous souhaitons, c'est accélérer la transition énergétique, sortir des énergies fossiles et fissiles, et notamment sortir du nucléaire bien plus rapidement que ce à quoi nous assistons. Et donc, pour ce faire, il nous faut des énergies renouvelables, mais des énergies renouvelables qui soient qui puisse se faire avec le moindre impact environnemental. Et là, en mer, on est confronté à un certain nombre d'enjeux sur lesquels nous sommes très vigilants.
Oui, parce qu'en fait, revenons peut-être sur les avantages déjà de l'éolien offshore par rapport ne serait-ce qu'à l'éolien terrestre ou à d'autres énergies renouvelables. Quels sont-ils ces avantages ?
Alors, les avantages, ça va être donc en termes de production, puisqu'on va avoir affaire à un gisement éolien beaucoup plus puissant. La France bénéficie du deuxième gisement éolien en mer en Europe après celui du Royaume-Uni. Et donc ces éoliennes-là vont très rapidement. Aujourd'hui, il y a presque 5000 éoliennes en mer en Europe. On n'en a qu'une en France, vous vous rendez compte, alors qu'on est le deuxième gisement éolien. C'est-à-dire que la France, industriellement, a pris un très grand retard. Ce qui me permet d'ailleurs, au passage, d'indiquer que nous ne sommes pas des Amish, mais que nous souhaitons aussi, que nous considérons que le progrès technologique peut être une solution particulière à cette transition énergétique. Et l'éolien terrestre, l'éolien posé en mer et l'éolien flottant sont des solutions. Il y a aussi des inconvénients.
Ah oui, votre position, elle est globale en faveur de l'éolien, mais avec peut-être des préférences. Est-ce que vous faites une différence entre, par exemple, l'éolien posé et l'éolien flottant, dont les impacts sont un peu différents?
Non. Alors, à chaque fois, nous avons affaire à des situations très différentes. Il faut tenir compte des écosystèmes auxquels on est confronté, que la baie de Saint-Brieuc n'a rien à voir avec le nord du golfe de Gascogne, sur un certain nombre de points. Il y a des compartiments biologiques qui peuvent être identiques, mais par compartiment, j'entends des éléments de la biodiversité, par exemple, des habitats qui peuvent être identiques d'un point à un autre, mais ils peuvent être aussi complètement différents. Vous pouvez avoir affaire, en baie de Saint-Brieuc, on va avoir affaire à des sols sableux, plutôt meubles, par exemple à Coquille Saint-Jacques, alors qu'en Sud-Bretagne, on va tomber beaucoup plus souvent sur des fonds rocheux. Donc les conditions de mise en exploitation et les conditions d'impact environnementaux sont très différents.
Mais globalement, le flottant, ça a moins d'impact, non ? Intuitivement, on se dit que ça a moins d'impact.
Oui, ça peut avoir moins d'impact, ça peut avoir aussi moins d'intérêt, parce qu'un parc éolien posé peut mettre en lumière ce qu'on appelle un effet récif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous installez des récifs en mer, vous avez une colonisation qui s'installe immédiatement et qui peut déboucher sur une colonisation par des espèces intéressantes, ne serait-ce que pour la pêche.
Ah oui, par exemple, alors
bah, ça peut être, par exemple, ça peut être du homard, ça peut être des crabes, ça peut être...
Ah oui, ils s'installent dans les socles des éoliennes.
Oui, surtout qu'autour des socles, vous pouvez installer, dès le démarrage d'un parc éolien, un projet de récif qui va au-delà du simple socle de l'éolienne. Le socle, il peut être en fer, il peut être en béton, il peut être... Donc on peut envisager, en fait, de faire du parc éolien une aire marine protégée de facto.
Ah oui.
Alors ça peut être une réserve intégrale, c'est-à-dire que la pêche y est interdite, mais ça peut être à ce moment-là un effet réserve, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'espèces peuvent se développer, qu'elles aient un intérêt commercial ou pas, et elles peuvent à ce moment-là se dissiper au-delà du parc, et donc intéresser la pêche qui peut se réaliser à l'extérieur du parc.
Et en gros, comment est-ce qu'on fabrique un récif sur un socle d'éolienne ?
Ah bah sur un plan technique, c'est extrêmement facile. Si c'est sur un socle, si le socle est en béton, vous installez ce qu'on a toujours appelé, par exemple, des HLM à homard, avec des résultats qui ne sont pas toujours aussi bons que les promoteurs l'ont indiqué. Mais en tout cas, la colonisation, elle se met en œuvre immédiatement. Alors, pour l'éolienne flottante, on n'aura pas tout à fait le même effet, mais on aura un autre effet qui s'appelle le DCP, un dispositif de concentration de poissons qui est utilisé pour la pêche thonnière tropicale, par exemple, avec des effets délétères. Mais à partir du moment où vous avez des éléments flottants sur la mer, vous avez une concentration d'animaux marins sous ces épaves flottantes.
Ils viennent manger, quoi, en fait.
Ils se concentrent, ils viennent manger. Donc il y a toute une chaîne alimentaire qui se met en place, et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'on pêche aujourd'hui grande partie du thon tropical grâce à ces concentrations d'animaux pour les thons, pour les thonidés de fin de chaîne alimentaire. Donc on peut avoir les mêmes éléments en Sud-Bretagne. Donc les intérêts sont pas tout à fait les mêmes, que ce soit posé ou flottant. Mais à un moment donné, on ne peut plus faire du posé, parce que les fonds sont, en gros, ils sont supérieurs à 50 mètres, donc vous ne pouvez plus faire du posé.
Oui, ça coûterait trop cher en entretien aussi, c'est ça.
Il faudrait envisager des technologies que l'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Aujourd'hui, sur l'éolien posé, je vous dis, il y a plusieurs milliers d'éoliennes posées en Europe. L'Europe est leader mondial dans ce domaine. Donc on sait poser, on a des retours aujourd'hui. On n'a plus besoin, en mer du Nord par exemple, les derniers parcs éoliens posé, vous n'avez plus besoin de subventions. Et aujourd'hui, l'éolien marin posé est l'une des énergies les moins coûteuses et les plus intéressantes en termes de prix. C'est donc un élément majeur. Aujourd'hui, sur le projet de Dunkerque en France, qui est de l'éolien posé, on arrive à des niveaux qui sont aujourd'hui inférieurs au prix du nucléaire officiel, c'est-à-dire que sans tenir compte de tous les coûts afférents qui ne sont jamais intégrés dans le nucléaire.
C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Quand vous dites ça, vous prenez en compte tout le coût de fabrication des éoliennes, enfin
et le démantèlement.
D'accord.
Aujourd'hui, on sait ce que coûte le démantèlement d'un parc éolien, en tout cas actualisé à l'année zéro. Un parc éolien va durer 20-25 ans. En revanche, on ne sait toujours pas aujourd'hui combien coûte le démantèlement, par exemple, de Brennilis, qui est notre première centrale qu'on est loin d'avoir terminé de démanteler. Donc on ne connaît pas le coût du démantèlement du nucléaire, on connaît le coût du démantèlement de l'éolien terrestre et de l'éolien marin.
Donc c'est le plus intéressant, même par rapport au solaire.
Aujourd'hui, oui. Ouais. En revanche, l'éolien flottant n'est pas aujourd'hui dans des coûts très compétitifs. Mais ces coûts s'améliorent chaque année, ils diminuent de l'ordre de 3, 4, 5% par an. Donc en une dizaine d'années, vous avez rattrapé les autres sources d'énergie compétitives.
Alors on a parlé des impacts positifs, notamment sur la faune marine, peut-être la flore aussi, sur les impacts peut-être négatifs que vous avez pu, enfin qui ont pu être constatés dans d'autres parcs ou qui sont redoutés.
Oui, alors c'est plutôt en termes d'enjeux où il faut être extrêmement vigilant, parce que les retours d'expérience sur de l'éolien flottant, aujourd'hui, on n'en a pas énormément.
Ah oui, même dans d'autres pays où c'est déjà bien avancé.
Non, c'est toujours une technologie peu avancée. C'est là où la France peut rattraper son retard. Et d'ailleurs, on a affaire à de très très grands opérateurs. Hein, qui... Et ça se traduit par des investissements particulièrement lourds qui concernent l'ouest de la France. Je pense à Cherbourg, je pense à Saint-Nazaire, je pense à Brest. Là, les investissements sont déjà partis. On a, donc des, en termes d'emploi, on a déjà des retombées pour 2021-2022 qui sont extrêmement importantes. Mais revenons aux enjeux biologiques. Alors, il y a quatre grands volets qui sont véritablement concernés. Vous avez d'abord les mammifères marins. Alors, qui connaissent aujourd'hui des difficultés dans le golfe de Gascogne, puisque des captures accessoires sont relativement importantes à cause de la pêche française et de la pêche européenne dans le golfe de Gascogne. On va peut-être vers une fermeture partielle de la pêche en début d'année prochaine, parce que la mortalité par pêche est trop élevée.
Surtout des dauphins.
Oui, dauphins communs notamment, mais enfin donc les mammifères, les delphinidés en général, donc les dauphins, le dauphin commun plus particulièrement, et on retrouve des cadavres de dauphins maintenant presque toute l'année sur nos côtes, mais l'essentiel va sur les côtes de Vendée et de Charente-Maritime.
Mais là, ça n'a pas de rapport avec les éoliennes, ouais.
Non, mais ça peut avoir un rapport au sens où des chocs peuvent avoir lieu, soit avec des bâtiments, des navires qui font la navette entre les parcs et la terre, mais ça, bon, ça existe, quelle que soit d'ailleurs l'activité en mer, mais c'est très fréquent, notamment en Méditerranée. Ensuite, ça peut être des mouvements, par exemple des chaînes, des choses comme ça, mais bon, on a affaire quand même à des animaux particulièrement, globalement furtifs, donc... Les enjeux sont de mortalité ou de blessure existent, mais à mon avis, ils ne sont pas extrêmement importants. Mais en même temps, ces populations ont tendance à croître sur les côtes bretonnes, je pense notamment aussi aux phoques. Mais a priori, on n'est pas dans une zone concernée par ces enjeux-là.
Mais le câblage, par exemple, pour le flottant, ça se passe comment
Le câblage se passe de la même manière, c'est-à-dire qu'il y aura un câble qui descend d'une station électrique en mer qui est réalisé par RTE, le réseau de transport d'électricité. Et donc, il y a un câble qui descend de cette station.
Alors,
il y a un
câble de chaque éolienne, en fait.
De chaque éolienne qui va vers une station électrique, et il n'y en a qu'une seule. Et la station électrique, c'est un câble qui descend sur le fond, et puis depuis le fond, qui va vers le littoral.
Mais ça fait quand même une forêt, entre guillemets, de câbles suspendus. Enfin, une forêt, remarquez. S'il y a 20 éoliennes, ça va.
C'est pas une forêt, mais il y en a. Donc, il y a des câbles qui n'existaient pas précédemment. Et donc, les animaux ne sont pas suicidaires. Quand il y a une falaise, les poissons ne se précipitent pas sur le bas de la falaise. Donc là, on peut supposer que nous n'aurons pas ce type de...
Et ça ne crée pas des champs électromagnétiques,
Les champs électromagnétiques, aujourd'hui, les éléments d'information à notre connaissance montrent qu'ils disparaissent très, très vite. Hein, c'est quelques dizaines de centimètres au-delà des câbles eux-mêmes. Alors les câbles, en général, vont être soit ensouillés, c'est-à-dire enfouis, sous le sédiment, soit recouvert par différents types de couvertures lorsqu'on est sur des fonds rocheux. Et les câbles, pour l'essentiel, évitent les zones à enjeu. Je pense notamment les zones à enjeu algaux, c'est-à-dire avec une présence d'une population algale intéressante qui sert de base de nourricerie à d'autres populations, notamment aux poissons, etc. Donc on est... Là, pour l'instant, mais sur les champs électromagnétiques, en mer comme en terre, à terre, on a aussi beaucoup de recherches scientifiques à
en faire. Cours, ouais.
En cours, oui. Donc après, les mammifères, je dirais que l'enjeu majeur, ça va être, c'est surtout l'avifaune, c'est-à-dire un certain nombre d'espèces qui utilisent ces terrains-là comme soit zone de nourrissage.
Les oiseaux, c'est ça ?
Les oiseaux et chiroptères, parce qu'on découvre en fait que...
Ah bon, il y a des chauves-souris en mer ?
On découvre que les chauves-souris vont de temps en temps en mer, quelquefois même loin. Très loin. Ouais. C'est d'ailleurs une de... L'avantage des parcs éoliens, c'est que ça nous permet d'améliorer la connaissance scientifique
j'imagine.
Énormément, comme les aires marines protégées d'ailleurs, mais c'est incroyable la masse d'informations que l'on peut récolter.
Vous avez le droit de rester dans les éoliennes pour observer, de dormir dans les éoliennes.
Les éoliennes vont servir aujourd'hui, les éoliennes vont servir de poste d'observation permanent sur l'environnement, que ce soit sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, sur un certain nombre d'éléments.
Avec des capteurs, je suppose, pas forcément avec des gens dedans
en permanence. Il n'y aura personne sur les parcs éoliens. Mmh. Mais en revanche, il y aura des capteurs, il y aura donc un monitoring depuis la Terre sur un très grand nombre de variables. Et on réfléchit d'ailleurs la meilleure manière de mutualiser tous ces instruments, surtout sur le poste électrique de RTE en mer, sur les grandes plateformes, un peu comme les plateformes pétrolières, sur lesquelles on peut installer beaucoup de choses. Pourquoi pas, là c'est caricatural, mais pourquoi pas demain un bar-restaurant?
Mais pourquoi pas, c'est pourquoi vrai.
Mais déjà, en mer du Nord, on en a fait des reposoirs pour animaux, certains animaux marins. Qui ont trouvé ça très, très sympa d'avoir des reposoirs un peu plus loin que ceux qu'ils connaissaient jusque-là. Donc l'avifaune, ça va être, c'est l'un des enjeux. Mais sur les espèces qui nous concernent ici, alors il y a deux ou trois espèces sur lesquelles on manque d'informations véritablement, mais...
Lesquelles, par exemple?
Sur le fulmar, par exemple. Autrement, on va avoir affaire surtout à des goélands. Donc toutes les espèces de goélands, mais on a déjà eu énormément de travaux qui ont été faits à partir des parcs posés à Yeux, Noirmoutier, sur le banc de Saint-Nazaire avec l'éolienne flottante qui existe aujourd'hui. Donc en fait, les préoccupations que nous avons là pour ce projet-là en Sud-Bretagne sont les mêmes préoccupations que celles que l'on a sur l'estuaire de la Loire et puis au large de la Vendée. On a souvent affaire aux mêmes populations. Donc là, les enjeux, c'est faire en sorte que on ne puisse avoir un impact négatif. Par exemple, de la mortalité, si je pense aux chiroptères, le plus faible possible. Donc ça se traduit par un certain nombre de dispositifs ou de dispositions que mises en œuvre par l'opérateur à notre demande ou à la demande d'autres organismes. La difficulté, c'est de pouvoir mesurer, par exemple, la mortalité en mer. C'est quasiment impossible. Déjà à terre, ça nous pose quelques problèmes. Mais souvent, on peut repérer au pied d'un mât éolien des oiseaux morts ou blessés, tandis qu'en mer, ce sera extrêmement plus difficile. Mais on pense ne pas être confronté à ce que nous avons pu vivre sur des parcs éoliens terrestres, où là, quelques rares fois, il y a eu des véritables hécatombes d'espèces protégées.
Ah oui, on sait pourquoi, sur ces parcs-là, précisément.
Ah oui, on était sur des courants migratoires, sur des corridors migratoires de certaines espèces très protégées, voire ce qui aurait dû être évité dès le départ. On n'a pas besoin d'installer les éoliennes.
Oui, c'est ça, c'est faisable. En fait, on connaît à peu près les courants migratoires des oiseaux et
oui,
on peut installer.
En tout cas, on demande. Alors, nous, on met en exergue toujours la procédure qu'on appelle ERC, éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire, éviter, c'est justement ça, c'est-à-dire réfléchir au moindre impact dès le départ, ne pas se poser, par exemple, je vais dire quelque chose de relativement simple, mais ne pas se poser sur une zone de nidification. Ne pas se poser sur un corridor migratoire, ne pas se poser donc sur tel ou tel endroit sensible. Ensuite, c'est réduire, c'est-à-dire faire en sorte que l'impact soit moindre. C'est par exemple passer de 100 éoliennes à 70. Et puis compenser, c'est quand on est au bout du bout, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser un impact, par exemple une mortalité sur telle ou telle espèce. Donc ça peut être... Alors en mer, c'est extrêmement difficile de compenser. Et en général, ça se traduit pour l'instant par des compensations à terre. Mais la réflexion doit se poursuivre pour que on puisse, notamment vis-à-vis des populations les plus fragiles, mettre en œuvre des dispositifs de protection avérés. Et c'est le cas déjà pour les chiroptères, par exemple, à terre, où on demande de pouvoir brider les éoliennes, c'est-à-dire on les arrête. Ce sont des périodes extrêmement, relativement bien connues aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait quand il faut arrêter l'éolienne. Alors ça se traduit par une perte de production, mais il faut l'intégrer dans le business de l'entreprise dès le départ. Et en tout cas, c'est ce que l'on fait. Sinon, ça peut se traduire par des actions en justice que nous avons déjà menées, notamment dans le sud de la France, contre des opérateurs éoliens. Et on a déjà gagné, bien sûr.
Donc là, on a parlé des mammifères, les oiseaux,
chauves-souris, et puis restent toutes les populations sur le sol, sur ce qu'on appelle le benthos marin. Et donc là, à partir du moment où vous travaillez sur le sol, alors l'éolien flottant, deux aspects sont concernés. C'est d'une part l'ancrage.
Elles sont quand même attachées au sol,
sol, et les ancres, c'est pas des petites ancres, hein, ce sont des...
C'est ça, elles ne dérivent pas comme ça.
On va dire même, ça peut être quelquefois des petits immeubles.
Ah ouais.
Et donc une ancre peut nécessiter, par exemple, d'être frappée, pour s'enfoncer dans le sol. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on a pour l'éolien posé, où les pieux là sont enfoncés avec des niveaux acoustiques sonores extrêmement importants, oui, qui ont un effet qui peut être létal par rapport à certaines populations, je pense notamment aux mammifères marins. Donc ah oui, là, sur les ancres, on pourrait avoir affaire. Alors, on est dans un rapport qui est très différent. On est peut-être dans un rapport de 1 à 10 en termes de puissance sonore, etc. Mais peu importe.
C'est normalement ponctuel, le temps du chantier.
Ah oui, c'est au moment de l'installation.
D'accord.
Ensuite, pendant l'exploitation, en fait, c'est le mouvement des câbles, qui, notamment sur le fond, puisque que ce soit les ancres ou d'autres types de câbles, peuvent venir frotter en permanence le sol, donc sur des... C'est pas sur des zones importantes, mais c'est pour, ça peut, au total, et surtout si on y rajoute le câble qui va venir de 30 km au large vers la Terre, c'est-à-dire que des zones qui vont être concernées, c'est quelques petits kilomètres carrés au total, mais ces kilomètres carrés, il faut qu'ils soient les moins riches possibles en termes biologiques. D'accord. Et qu'on n'est pas, je sais pas, qu'on tape pas sur des zones de zostères, par exemple. Ou...
Alors les zostères, c'est des algues, c'est ça ?
Non, c'est des plantes.
Des plantes, pardon.
C'est des plantes, ouais. Ça ressemble.
Enfin, c'est du végétal.
C'est
on va dire.
Et là, c'est du végétal. Ouais. on en a un peu partout. On n'a pas de grands champs de zostères comme en Méditerranée, mais on en a un peu partout. Donc il faut, et on ne le sait pas toujours. Donc
ah ouais.
il y a nécessité à chaque fois, par phasage successif, d'aller préciser les réponses à toutes nos interrogations sur tel ou tel aspect. Et il y a un dernier aspect qui concerne aussi la vie marine, c'est ce qu'on appelle les anodes sacrificielles en mer, c'est-à-dire que comme pour les navires, on installe des anodes qui permettent de supprimer tout dégât sur les parties métalliques des structures, que ce soit des navires ou là, ce qu'on appelle les jackets, c'est-à-dire des supports métalliques. Et donc, c'est du largage de métaux lourds dans le milieu marin.
Une pollution, quoi.
Une pollution supplémentaire. Alors, c'est une pollution marginale, mais c'est une pollution supplémentaire. Donc, si on peut l'éviter, c'est possible, dans des conditions technologiques qui sont toujours... un peu plus compliqué, on le fait.
Très bien. Merci Denez Lostis. Alors, bien sûr, vous pouvez aller sur le site internet de Bretagne Vivante pour en savoir davantage. Cet entretien sera en réécoute sur le site internet de Radio Évasion. Vous pouvez aussi réécouter un entretien qu'on avait réalisé avec Charlène Carmagorec, qui est docteure en économie écologique. Elle nous avait expliqué la perception des impacts de ce type d'installation éolienne offshore et, ou autre d'ailleurs, par les populations locales humaines.
L'émission.